Ah non, je vais vous parler en fait santé, si ça vous dirait, parce que aujourd'hui l'Institut économique de Montréal a publié une importante étude qui nous apprend que, croyez-le ou non, j'ai de la misère à comprendre, là, on va aller parler à notre prochain invité parce que faut qu'il m'explique ça comme faut. Il y aurait moins de patients par rapport à l'année passée, mais à l'urgence et dans les hôpitaux, on attendrait plus longtemps. Fait que pour essayer de résoudre cette équation qui me semble un peu bizarre, on va aller parler à Patrick Derry, qui est chercheur à l'Institut économique de Montréal. Patrick Derry, bonjour.
Bonjour.
Donc, est-ce que j'ai bien lu? Il y a moins de monde dans les urgences, mais on attend plus longtemps. Comment est-ce possible?
Oui, vous avez bien lu. J'ai peur de ne pas avoir toutes les réponses. On s'est posé des questions, par exemple, à savoir est-ce que c'était parce que le nombre, juste pour remettre en contexte un peu, on parle d'une augmentation de 5 minutes pour l'ensemble des patients, puis de 15 minutes pour les patients sur civière par rapport à l'année passée. Si on compare à l'an dernier, on avait une augmentation de 8 minutes pour l'ensemble des patients, mais les patients sur civière, ça avait diminué. Là, dans cette année, là, ça augmente dans les deux cas. Ce n'est pas des énormes augmentations. Mais comme on avait un peu les conditions gagnantes cette année parce que le nombre de patients avait diminué un petit peu, on aurait pu s'attendre à ce que ça reparte au moins dans la bonne direction, puis c'est pas ce qui est arrivé. Fait que donc, on s'est demandé, est-ce que c'est parce que le nombre de patients âgés de 75 ans et plus, par exemple, qui peuvent prendre plus de temps à traiter, a augmenté? Il y a une légère augmentation, mais beaucoup moins élevée que les deux années précédentes, donc c'est pas ça. On a regardé aussi, est-ce que c'est des cas graves? Hein? Pour ceux qui sont familiers, les priorités 1, 2, 3, 4, 5, là, bon, ouais. Ben, les 1 à 3, c'est des cas plus graves. Est-ce que ça a augmenté? Puis encore là, non, c'est soit stable ou à la baisse. Fait que ce que ça donne l'impression, c'est, tu sais, c'est difficile d'imaginer des scénarios où ça va s'améliorer quand le nombre de visites va augmenter, ce qui va arriver avec le vieillissement de la population. Fait que ça donne l'impression d'un système à bout de souffle.
Là, mais en même temps, je me dis, là, on paye de plus en plus cher. On sait que le budget pour la santé, hein, en pourcentage des dépenses du gouvernement du Québec, c'est celui qui est en plus forte croissance. Là. C'est des croissances entre 3 et 7 % là, toutes les dernières années. Et malgré le fait qu'on injecte plus d'argent, malgré le fait qu'il y a moins de monde qui se présente à l'urgence, on paye plus cher. Est-ce qu'il faut comprendre que le fait que les salaires des médecins ont littéralement explosé ces dernières années, ça fait en sorte qu'ils se disent à quoi ça sert de travailler, je suis déjà plein comme un boudin, et qu'en moins d'heures, ils réussissent de toute façon à faire plus de fric, puis nous autres, pendant ce temps-là, on se ramasse avec moins de services?
Oui, ben c'est plus complexe que ça. C'est sûr, la rémunération des médecins a augmenté énormément. Ça semble pas avoir donné, disons, les effets escomptés sur le plan de la productivité, mais il y a quand même beaucoup d'autres dépenses dans le système de santé. Si on regarde, là, par exemple, pour aller encore plus dans le sens de ce que vous mentionnez, j'avais regardé l'année passée, là, depuis 25 ans, si on tient compte de l'augmentation de la population puis de l'inflation, les dépenses en santé, les dépenses réelles ont presque doublé. Donc, c'est vraiment énorme, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des réformes bureaucratiques où on donne un coup de vis d'un côté, on donne un coup de vis de l'autre, on donne un petit coup de pied dans la plomberie. On espère que les choses vont changer, mais les incitations fondamentales là, qui sont derrière notre système de santé, celles-là, on y touche pas. Et c'est là le problème.
Je vais citer un bout de votre étude qui m'a fait sursauter quand j'ai lu ça un peu plus tôt aujourd'hui. Les délais d'attente, là, vous parlez des délais d'attente, font du Québec le dernier de classe du monde occidental.
Oui. Ça, c'est pas notre invention. Ça, c'est le commissaire à la santé qui est dans une étude qui avait été publiée il y a quelques années en se basant sur des comparaisons internationales, des sondages dans différents pays. Puis au Canada en général, on attend beaucoup dans les urgences. Là, les gens, ils ont l'impression que dans les autres provinces, ça c'est vrai que ça va c'est un peu moins pire. Mais la médecine de corridor, c'est une invention canadienne. Des temps d'attente comme ça en Europe, par exemple, des personnes qui passent 24 ou 48 heures sur une civière, on trouve pas ça. On voit pas ça en Europe.
C'est juste au Québec. On est une société unique, mais on est unique aussi parce qu'on est ceux qui attendent le plus. Est-ce que ça veut dire qu'on est les plus mal gérés?
Ben, écoutez, il y a quelque chose qui est particulier. Puis comme je dis, moi, j'ai tendance à mettre, il y a des particularités au Québec, mais globalement, c'est le système, dans les autres provinces au Québec, il y a beaucoup de similitudes. C'est quelque chose qui distingue le Québec de l'ensemble des pays occidentaux, c'est que notre système hospitalier est entièrement géré par l'État. Puis, tandis que si vous regardez les pays d'Europe, puis là, je ne veux pas embarquer dans le système américain parce que c'est un système différent, toute la population n'est pas couverte, mais les systèmes européens, il y a une couverture universelle, comme ici. C'est-à-dire que tout le monde bénéficie de l'assurance maladie. Et à l'intérieur de ces systèmes-là, vous avez des hôpitaux publics, comme ici, gérés par l'État, mais vous avez aussi des hôpitaux qui sont gérés par des organismes à but non lucratif, même par des entreprises privées à but lucratif. Donc, en France, en Allemagne, en Italie, par exemple, c'est des pays qui partagent des valeurs sociodémocrates là, qui sont chères à bien des Québécois. Vous avez le tiers des hôpitaux qui sont privés et plus, qui sont privés à but lucratif dans des systèmes de santé universels. Fait que ça apporte de l'innovation, de l'entrepreneuriat, d'autres façons de faire. Le patient a plus le choix de son fournisseur de santé. Ces hôpitaux-là sont plus performants, tant sur la qualité des soins généralement, puis sur les coûts aussi, ont tendance à tirer les systèmes de santé vers le haut. On n'a pas ça ici. Fait que nous, ce qu'on dit, puis on n'est pas les premiers à le dire, il y a un paquet de rapports qui ont été faits, notamment là, la commission Claire, la commission Castonguay, regardons vers l'Europe. Et on est rendu là, je pense.
On est rendu là. Il y a des gens aussi qui disent, là, c'est l'héritage du Dr Barrette, parce qu'on sait que l'ancien ministre de la Santé du Parti libéral a laissé sa marque. Beaucoup de gens ont parlé de ses grandes réformes puis de ses coups de gueule, mais est-ce que c'est quelque chose qui était là bien avant lui puis qui continue bien après lui, puis que le Dr Barrette, il aurait peut-être fait beaucoup jaser dans les médias, mais concrètement, dans le système de santé, il n'a pas vraiment changé les tendances lourdes?
Ouais, mais c'est ça, on a essayé des réformes bureaucratiques encore, puis c'est pas le premier là, c'est ça, la manière était peut-être un peu disons moins cordiale parfois, mais c'est les mêmes temps. Et si on regarde par exemple les temps d'attente tels qu'ils étaient il y a 15 ans pour des patients sur civière, il y a eu des augmentations, des diminutions, là, il y a eu quelques fluctuations, mais on est exactement au même point. C'est-à-dire ça prend à peu près 9h30 un patient sur civière. C'est évidemment, c'est la durée médiane, ça peut être 24 48 heures, ça peut être beaucoup plus que ça. Puis tandis que les patients ambulatoires, ça prenait autour de 2h30, il y a une quinzaine d'années, là, la visite. Maintenant, c'est autour de 3h30. Fait qu'on a une augmentation de 50%. Fait qu'on n'a pas fait de progrès. Par contre, il faut donner le crédit au Dr Barrette pour quelque chose. Les projets pilotes qui sont présentement en cours à la clinique 1030 et à la clinique Rockland dans la région de Montréal, ça, c'est des cliniques privées qui opèrent des patients, mais présentement, l'État finance les chirurgies. Donc, parce qu'il y a des débordements là, dans les hôpitaux.
Nous autres, on a ça au Clinique La Croix à Québec, mais c'est pas le gouvernement qui paye, c'est nous autres qui payons de nos poches. Là.
Bon, ben ça, en tout cas, ça, c'est des projets pilotes dans le cas de faire du financement d'activité qui serait une très bonne réforme parce que l'argent suivrait le patient puis qu'il y aurait de la concurrence même dans le système public. Mais ce que ça fait, c'est que les patients sont opérés. Donc, ils présentent leur carte d'assurance maladie. Donc, ils ne payent pas pour se faire opérer. Mais dans des cliniques privées, les médecins qui travaillent là, le disent, ça a été documenté, sont beaucoup plus productifs que dans des hôpitaux. Fait que ça montre que, donc, ils font plus d'opérations dans une journée, par exemple. Ils peuvent être de 20 à 40 % plus productifs. Puis, il y a une chirurgienne, entre autres, elle, qui opérait sur des patientes atteintes de cancer du sein. Elle disait, une bonne journée, je fais 3 ou 4 opérations dans un hôpital. Quand je suis en clinique privée, c'est 8 ou 9 par jour. C'est pas du tout. Et pour ça, ben c'est comment les soins sont organisés. Il n'y a pas d'annulation. Par exemple, la salle de préparation pour les patients, à place d'être sur un étage différent de la salle d'opération, comme c'est le cas dans certains hôpitaux, est juste à côté. Fait qu'il y a toutes sortes de choses qui font que ça roule mieux. Fait que ça, c'est un exemple d'entrepreneuriat, mais dans le système universel. Ils ont traité, ils sont rendus à quelque chose comme 46 000 patients dans le cadre du projet pilote. C'est beaucoup de monde qui ont été traités. Ça leur a rien coûté, mais il y a vraiment des gains de performance appréciables.
Hey Patrick, en terminant, juste pour être sûr qu'on parle tout de la même affaire, tes chiffres quand tu parles du temps d'attente, etc., ils proviennent de où?
C'est le ministère de la Santé. C'est les chiffres du ministère via une demande d'accès à l'information. Ça fait la deuxième année qu'on fait ça. C'est d'ailleurs, si vous allez sur le site du ministère, vous cherchez demande d'accès, vous allez les trouver, vous allez avoir tous les tableaux. Puis bon, moi, pour les fins de ma recherche, là, j'ai regardé le global. Là, mais si vous voulez aller voir les hôpitaux dans votre région, voir qu'est-ce qui se passe, vous avez tous les détails qui sont là.
OK, bien c'est bon. Merci beaucoup, Patrick Derry, chercheur à l'Institut économique de Montréal, de nous avoir parlé aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Salut.
Au revoir. Marc, ça me fait capoter. Parce que là, on parle là, des gens qui attendent dans l'urgence. Y a-tu quelque chose de pire dans la vie que quand tu souffres, t'es dans un hôpital? Déjà, te rendre à l'hôpital, c'est parce que ça va pas, là. T'attends, puis on est rendu les pires de la planète, en tout cas dans le monde développé, là, du monde occidental. Là. Et non seulement ça se résorbe pas, on met de plus en plus d'argent, il y a moins de monde qui se présente aux urgences parce qu'on a l'impression que ça donne rien, puis malgré ça, on attend encore plus longtemps.
Mais
ça marche pas.
Ouais, écoute-moi, je comprends qu'il peut y avoir une discussion entre le privé comme aux États-Unis puis un système comme ici universel. Mais c'est quoi l'argument pour empêcher qu'il y ait aussi un volet privé? C'est quoi l'argument? Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qu'ils disent les gens pour qui le privé, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter?
Parce que c'est pas accessible à tout le monde.
Oui, mais puis si le système d'universel continue à l'être, puis que les gens qui ont les moyens peuvent aller, en quoi il y a un problème de désengorger pour des gens qui disent « moi, je vais payer pour que ça aille plus vite ». J'ai de la misère à comprendre où est la logique. Je veux juste qu'on me l'explique.
Là, je partage pas cette logique-là. Là. Je vais te l'expliquer, mais j'ai zéro d'accord avec. Là.
Okay.
Ce qu'ils disent, c'est que les médecins, les bons, vont migrer du public au privé parce qu'ils sont, ils sont plus productifs puis ils sont plus rentables. Donc, ils vont en allant au privé, le public va se ramasser avec les moins bons puis les temps d'attente plus longs encore. Donc, ça va
pas nécessairement avec les moins bons, mais avec moins de médecins disponibles parce qu'ils vont être au privé.
Puis les moins productifs aussi. Ceux qui sont gardés à faire 8 chirurgies par jour plutôt que 3, là, eux autres vont sauter au privé, ça va être avantage.
Okay, mais moi, je veux juste dire qu'un médecin, c'est parce qu'il y a une formation de médecin, OK? Il n'y a pas de carte gold, platine, or, argent d'être médecin.
Ben, c'est comme dans toutes les affaires, il y en a des bons, il y en a des moins bons.
Ben oui, mais je veux dire, il est toujours bien avec une vraie formation de médecin.
C'est comme les animateurs
de
radio, il y en a qui sont zéro, puis il y en a d'autres qui le sont pas.
Oui, je sais. OK. Écoute-moi, là, je l'achète pas cet argument-là. Je l'achète zéro.
OK, ben là...
Parce qu'à partir du moment... Non, mais je fais juste...
Comme moi non plus, je l'achète pas,
je te
là.
Dis ce que je pense. Je pense pas qu'il y a, parmi les médecins, quand ça fait 7 ans d'études que tu fais, qu'il y en a qui sont mauvais. Il y en a peut-être des meilleurs que d'autres, mais il y en a pas de mauvais. C'est des médecins formés.
Parlant de zéro, je vais parler maintenant d'un compte de banque qui est à zéro et non pas...